Jacques Mattandé Herbi pour le journal.
À la une de l'actualité, le mandat de Le Fort prend fin ce soir à minuit. Le Fort restera cependant opérationnel et pourra intervenir en cas de légitime défense jusqu'au départ du dernier soldat européen. Vous allez entendre dans ce journal le lieutenant-colonel Thierry Fusalba, porte-parole de Le Fort. Au Nord Kivu, le braconnage inquiète l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Plus de 50 hippopotames ont été abattus ces trois derniers jours en territoire de Rutshuru. Sont pointés du doigt les maïmaï de Chiondo en territoire de Lubero. En province orientale, le fleuve Congo est sorti de son lit. Plus de 500 familles de Bassoko sont sans abri. Elles vivent dans des pirogues, situation similaire à Bumba, dans la province de l'Équateur, où près de 200 maisons sont inondées par les crues de eaux du fleuve. C'est tout pour le sommaire et les développements, c'est dans un instant. Avant de commencer ce journal, le président de la République, Joseph Kabila, est arrivé ce jeudi en fin d'après-midi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Il n'y avait pas beaucoup de gens à l'aéroport pour l'accueillir comme d'habitude. Aucun signe de son arrivée n'ayant été visible pendant toute la journée. Sa délégation comprenait entre autres personnes Vital Kamerhe, secrétaire général du PPRD. Joseph Kabila n'a fait aucune déclaration à son arrivée à Goma sous un important dispositif sécuritaire à l'aéroport. La durée de son séjour ni son agenda ne sont pas connus. C'est sa première sortie depuis sa confirmation en tant que président élu démocratiquement par la Cour suprême de justice il y a 4 jours de cela. Cette visite coïncide avec des affrontements armés près de Goma entre les soldats de l'armée régulière et des insurgés fidèles au général déchu Laurent Kunda. C'est ce soir à minuit que prend fin le mandat de l'EUFOR, la mission militaire européenne en RDC, après 4 mois d'opération aux côtés de la MONUC. Selon le lieutenant-colonel Thierry Fusalba, la fin du mandat ne signifie pas la fin de la mission. La mission se terminera lorsque le dernier soldat européen sera rentré chez lui, a-t-il déclaré. Le lieutenant-colonel Thierry Fusalba, porte-parole de l'EUFOR, est au micro de Karine Kakassi.
Nous serons toujours opérationnels, mais évidemment, nous n'aurons plus le mandat pour faire les missions que nous avions avant. On pourra se déployer, envoyer des convois sur les routes, utiliser l'autoprotection. Nous aurons le droit d'intervenir en cas de légitime défense ou pour protéger des personnes qui seraient mises en danger, mais à proximité des forces européennes. Mais on ne pourra pas intervenir d'une manière ou d'une autre. Pour faire les missions que nous aurons le droit de faire, nous sommes parfaitement bien équipés. Maintenant, s'il s'agit d'intervenir en soutien de la MONUC, comme ça s'est produit les événements du 20 août, nous ne pourrons plus le faire tout simplement parce que nous aurons plus ce qui s'appelle les règles d'engagement, qui constituent un cadre juridique dans lequel nous pouvons agir. Ces règles d'engagement se terminant ce soir à minuit, en même temps que la fin du mandat. Il faut savoir que le redéploiement prendra 4 à 6 semaines, divisé en 2 phases. Une première phase qui ira jusqu'à mi-décembre, nous conserverons d'assez nombreuses capacités de combat. Et je pense que courant janvier, le dernier soldat quittera le territoire du Congo.
Le ministre allemand de la Défense et de la Coopération ont dressé un bilan positif de la mission des troupes de l'EUFOR en République démocratique du Congo. Selon les 2 ministres cités par l'agence France-Presse, les élections démocratiques ont été assurées. La ministre de la Coopération a reconnu que la RDC ne pouvait être encore considérée comme stable, mais qu'une chance existait de voir la violence cesser. C'est aujourd'hui aussi que se clôturent les dépôts des candidatures des sénateurs à la commission électorale indépendante. Le premier rapporteur de la CEI l'a rappelé au cours d'un point de presse qu'il a tenu hier mercredi à Kinshasa. Dieudonné Mirimo a par ailleurs rappelé que plus de 450 candidatures ont déjà été enregistrées pour 108 sièges des sénateurs à pourvoir. Et c'est là en raison de 4 sénateurs pour chacune de 25 provinces définies dans la Constitution. La ville-province de Kinshasa aura 8 sénateurs et on se pose une question. Quel est le rôle des sénateurs? La réponse avec René Capita.
Les sénateurs sont élus au second degré, c'est-à-dire que ce n'est pas la population qui les vote directement. Ils sont plutôt élus par les assemblées provinciales, c'est-à-dire par les députés provinciaux que le peuple a choisis. Pour être élu sénateur, il faut avoir au moins 30 ans. Leur mandat est de 5 ans, un mandat qui s'exerce sur l'Assemblée de la République. Comme les députés nationaux, les sénateurs produisent des lois. Ils étudient les projets des lois venant du gouvernement après que celui-ci soit passé par l'Assemblée nationale. Si sénateurs et députés ne sont pas d'accord sur un projet de loi, une commission mixte Sénat-Assemblée nationale est mise sur pied pour harmoniser les termes de la loi avant son adoption. En cas de désaccord, la position des députés prime. Comme l'Assemblée nationale, le Sénat contrôle la gestion du gouvernement et des entreprises publiques à travers des commissions ou par audition des ministres. À la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut être dissous par le président de la République. Et selon l'article 75 de la Constitution, le président du Sénat assure l'intérim du chef de l'État en cas de décès, d'empêchement ou de démission de celui-ci. La Constitution de la Troisième République prévoit aussi qu'un président de la République élu devient sénateur à vie après son mandat. Joseph Kabila, par exemple, deviendra sénateur à vie à la fin de son mandat s'il n'est pas réélu président de la République.
Direction province orientale pour parler de cette avancée dans la pacification du district de l'Ituri. Le MRC, Mouvement des révolutionnaires congolais de Mathieu Ngoudjolo, le FRPI, Front de résistance patriotique de l'Ituri, de Cobra Matata et le FNI, Front des nationalistes et intégrationnistes de Peter Karim, trois groupes armés encore actifs dans ces districts, ont signé hier un accord cadre pour la paix. Selon les termes de cet accord, ces trois groupes armés réitèrent leurs engagements à respecter le calendrier déjà établi pour envoyer leurs combattants au centre de pré-brassage de Bounia, Jean-Claude Bissiliabo.
Cet accord a été signé au quartier général de FARDC à Ituri en présence des autorités militaires de la MONUC. Dans cet accord, le gouvernement s'engage à proposer dès la mise en place du prochain Parlement une loi d'amnistie en faveur des responsables de ces trois groupes armés. Quant aux groupes armés, ils s'engagent notamment à envoyer leurs combattants dans les centres de pré-brassage d'après les calendriers que présente le commandant des opérations militaires FARDC en Ituri, général de brigade Vainqueur Mayala.
Pour le FNI, du 27 novembre au 3 décembre, MRC du 4 au 10 décembre et FRPI du 11 au 17 décembre 2006. L'entrée dans le processus doit obligatoirement s'effectuer avant le 30 décembre 2006.
Pour confirmer leur engagement, parmi ces trois groupes armés, il y en a qui ont déjà exprimé leur ambition de s'ériger en parti politique, sitôt l'intégration de leurs combattants est effectuée. C'est le cas du FRPI de Cobra Matata, comme le déclare son responsable politique Émile Mouito.
Dès qu'ils seront brassés, nous devons orienter les uns en l'intégration. Le mouvement est déjà né et doit évoluer. La partie politique, c'est ça notre objectif. Ça demande la collaboration avec le gouvernement à partir d'aujourd'hui.
Signalons que le présent accord abroge tous les autres intérieurs signés séparément par chacun de ces groupes armés. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les localités de Kikuku et Mutanda en territoire de Rutshuru, à environ 180 km de Goma, sont depuis hier mercredi en fin d'après-midi sous contrôle des militaires FRDC de la 9e brigade intégrée. Selon le commandant de cette brigade, la reprise de ces deux localités stratégiques est intervenue après des violents combats entre ces hommes de troupes et les militaires insurgés fidèles à Laurent Kunda. Les bilans des hostilités n'ont pas encore été fournis, mais pour l'ensemble des affrontements depuis lundi dernier, la 9e brigade intégrée aurait perdu 5 militaires et enregistré 12 blessés, a indiqué le commandant de cette brigade. Pour l'instant, la localité de Niazala est contrôlée par les hommes fidèles à Kunda, affirme ce commandant. Au Nord Kivu, toujours, plus de 50 hippopotames ont été abattus ces trois derniers jours dans le baie de Munyanga et de Vichumbi, au bord du lac Édouard, en territoire de Rutshuru. L'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, pointe du doigt les maïmaï venus de la localité de Tchondo, en territoire de Lubero. Monsieur Claude Sikou Boabo de l'ICCN l'a déclaré au micro de Charles Ndrgisha.
C'est un groupe de maïmaï. Ils abattent à un rythme d'une guerre. On dirait qu'ils font la guerre aux hippopotames. Avant-hier, ils ont abattu la journée 8 et le soir 10. Hier, ils ont abattu 36 hippopotames en face de Vichumbi dans la baie Mugera. Avec cette allure, on aura difficile à trouver un seul hippopotame à mi-janvier. Il faudrait que le gouvernement essaie de voir. Nous n'avons même pas les 1/10 de moyens logistiques pour affronter ces gens. Le PP Vichumbi a 10 gardes. Comment 10 gardes peuvent affronter plus de 300 maïmaï hautement armés? Le parc national de Virunga, c'est un patrimoine national et aussi international. Et je ne vois pas comment on peut les laisser se détruire comme ça.
Il est 18h, près de 10 minutes à Kinshasa, une heure de plus en province orientale, et l'actualité se poursuit. Plus de 500 familles sont sans abri et vivent dans des pirogues à Bassoko, territoire situé à environ 300 km de Kisangani en province orientale. Ces chiffres sont donnés par l'administrateur de ce territoire qui affirme que 22 villages de son entité sont sous les eaux suite à la crue des eaux du fleuve Congo et de ses affluents. Jean Bosso Kela Magini, administrateur du territoire de Bassoko, est joint au téléphone par André Kitenge.
Le territoire de Bassoko qui est traversé par le fleuve Congo. Beaucoup de villages sont déjà sous eau, sont inondés. Nous avons au total 22 villages qui sont déjà inondés. On peut estimer à 786 familles qui sont sinistrées. On peut extrapoler jusqu'à au-delà de 5000 ou 6000 personnes qui sont sinistrées dans le territoire de Bassoko. Comme bon nombre de villages sont très distants, sont très éloignés de la cité de Bassoko, ceux-là restent toujours à côté de leur village. Ils sont dans leur pirogue. À ce moment-là, vous comprenez, ce sont des pirogues bateaux de pêche, pirogues maison, et pirogues comme breuvage parce qu'ils puissent de l'eau sur place là-bas. Je peux y ajouter aussi pirogues toilettes parce qu'ils ne savent où aller. S'ils veulent peut-être aller au besoin, ils restent toujours à côté. Donc pirogues bateau de pêche, bureau de maison, vous pouvez un peu deviner toutes les maladies éventuelles, je parle des maladies endémiques qui sont éventuelles.
Inondation également à Bumba, province de l'Équateur, déjà près de 200 maisons inondées par les crues et des familles sans abri dans cette localité située à 600 km en amont de Mbandaka sur le fleuve Congo. Ces inondations sont la conséquence des pluies diluviennes de ces derniers mois dans la région. Dominique Wolombi pour les détails.
Les crues du fleuve dues aux pluies diluviennes ont déjà inondé une bonne partie du centre commercial au nord et les quartiers Moloa au sud de la cité de Bumba. Les pluies continuent à tomber et les zones arrêtent de monter. Les quartiers Mobutu, l'hôpital général de référence et la partie sud du centre commercial où se trouve la banque commerciale et les bâtiments administratifs du territoire sont menacés. Près de 200 maisons sont inondées. Certaines familles sans abri vivent sur des pirogues. Plusieurs hectares de champs de riz irrigués sont perdus. Selon les responsables de l'ONG catholique Caritas Développement, ces inondations ont coupé les voies d'approvisionnement en produits vivriers de la cité de Bumba, notamment les ponts de la rivière Moloa sur la route qui mène à Lissala. Pour entrer avec leurs produits à Bumba, les paysans empruntent des pirogues moyennant une somme d'argent pour la traverser. Une cellule de crise est mise en place par l'autorité locale. Selon les médecins chefs de zone de Bumba, pas encore des cas de maladie, mais avec les mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles vivent les familles sans abri, il est à craindre que des maladies d'origine hydrique ne se déclarent, dit-il. Face à ces sinistres, l'ONG Caritas Développement lance un appel aux humanitaires à venir au secours des sans-abri. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Quittons la province de l'Équateur et les inondations pour parler des enseignants des écoles publiques et catholiques de Kananga qui sont descendus cet avant-midi dans les rues. Ils réclamaient leurs arriérés de 2 mois de salaire. Cet après-midi, ils ont perçu le salaire du mois d'octobre. Ils accordent un délai de 48 heures avant d'envisager d'autres actions syndicales si le mouvement de paye s'interrompt. De Kananga, André Kambala.
C'est aux environs de 12 heures que le calme est revenu dans les milieux des enseignants manifestants. À ce moment-là, l'opération précipitée de paye de leur salaire d'octobre était annoncée. C'est ainsi qu'ils ont quitté le cabinet du gouverneur pour aller percevoir leur dû dans les établissements respectifs. Au même moment, leur collègue arrêté a été relâché grâce à l'intervention du gouverneur. Malgré tout ceci, ils promettent de maintenir leur position si la paye du second mois n'est pas libérée dans les 48 heures qui suivent. Sylvain Mampaye, secrétaire du Sinécat.
C'est un salaire, mais pour l'ultimatum était donné pour qu'on paye 2 mois parce que la date butoir largement dépassée. Nous sommes le 30 aujourd'hui. Aujourd'hui, on libère 1 mois. Nous cherchons à ce que le deuxième mois sorte. Ce sont des actions syndicales. Ça va continuer au cas où on ne libérerait pas un deuxième mois à partir d'aujourd'hui ou demain.
Pour le maire de Kananga, les enseignants sont allés vite en besogne. Mazarin Pierre Mfamba s'est dit rassurant pour la paye de novembre et invite les enseignants au calme. Quant au retard enregistré, les autorités de l'enseignement l'ont attribué au manque de liquidités dans la banque pendant toute la période des campagnes électorales. Inquiets, la plupart des parents exhortent les autorités et les enseignants à user du bon sens pour éviter les perturbations telles que connues l'année scolaire dernière. De Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Parlons santé dans la province de Bas-Congo. Généralisation de l'épidémie de rougeole dans cette province. Au cours du mois d'octobre dernier, sur 31 zones de santé que compte cette province, l'épidémie de rougeole avait été déclarée dans 21. Au cours de ce mois, 7 zones de santé supplémentaires se sont ajoutées, ce qui donne un total de 28 zones touchées. C'est ce qui est ressorti de la réunion hebdomadaire des cadres sanitaires du Bas-Congo tenue hier mercredi à Matadi. Antanase Mayemba, directeur adjoint chargé des épidémies à l'inspection médicale du Bas-Congo, explique les raisons de cette augmentation au micro de Guirogé Niampala.
Pour le cas précis de la rougeole, je pense que d'abord c'est une maladie virale. Une maladie virale arrive d'une manière cyclique, donc c'est par période. Vous savez, au cours de l'année, nous pouvons enregistrer des cas de rougeole, mais à un moment donné, les cas sont déclarés en pic, c'est-à-dire d'une manière permanente. C'est ce qui justifie la présence du nombre impressionnant de cas de rougeole dans notre province. D'une part, il y a la vaccination qui est souvent pratiquée, la vaccination des routines dans presque toutes les formations médicales. Mais ce fait que, comme les gens ne sont pas stables, compte tenu de la situation socio-économique, les gens se déplacent. Donc c'est ça qui fait que, pour ne plus parler de la rougeole, c'est un peu difficile pour le moment parce que les gens se déplacent facilement. Quelqu'un part dans un milieu qui n'est pas infecté, mais là où il vient avec le virus de la rougeole. C'est ça qui justifie la présence permanente de la rougeole.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-le sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Excellente condition de coup sur la fréquence de la paix. Okapi. Okapi.